Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente...
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui met en avant ces entrepreneurs innovants et engagés. Tout à l'heure, je vous emmènerai à Lyon découvrir la Y-Brush qui permet un brossage en 10 secondes au lieu des 2 minutes habituelles. Une technologie développée avec des dentistes et fabriquée en France. Ça sera en deuxième partie d'émission. Eux ont souhaité valoriser une voie alternative et durable dans l'univers de la beauté. Ils ont la quarantaine ou la cinquantaine et montrent que c'est tout à fait possible de monter une boîte à l'approche de la cinquantaine justement et que ça n'est pas réservé aux jeunes start-upers. On en parle tout de suite avec Julie Garrigue, associée et cofondatrice de Less is More avec Freddy Schmidt.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Julie.
Bonjour Nathalie.
Vous avez créé avec Freddy Schmidt justement Less is More. Alors avant de parler de ce produit qui souhaite changer nos habitudes, vous avez tous les deux évolué dans l'univers de la cosmétique pendant plusieurs années.
Exactement, à nous deux, on aime dire qu'on cumule plus de 40 ans d'expérience à deux. Hein.
Lui a travaillé pour L'Oréal et pour Bayerdorf, hein, c'est ça?
Oui, et puis Coty, notamment, c'est là où il a fait le plus gros de sa carrière et c'est là où on s'est rencontrés il y a 18 ans. Non, il a fait Londres, Paris, on s'est rencontrés en développement parfum, donc il y a 18 ans ou quelque chose comme ça. Et lui a continué sa carrière, moi j'y ai passé 7 ans au développement parfum et ensuite je suis partie en Australie où j'ai travaillé en filiale là-bas, toujours dans la cosmétique pour le groupe Coty à Sydney. Et ensuite, j'ai également travaillé pour un distributeur de la marque Guerlain en Australie et pour le groupe Revlon.
Après toutes ces années dans l'univers de la cosmétique, j'ai envie de dire quel a été votre constat? Pourquoi cette envie de changer de vie, de quitter un poste de salarié pour devenir entrepreneur?
Eh ben en fait c'est parce que justement cette connaissance, cette expertise qu'on avait de la cosmétique, on en est arrivé à la réalisation qu'en fait le succès de cette industrie repose beaucoup sur le gaspillage, la course à l'innovation, la pollution également puisque c'est une industrie extrêmement polluante et on a voulu prouver que quelque chose de plus raisonnable et une conception plus raisonnée de cette industrie pouvait être réalisée en France.
Et puis il faut le dire, les grands groupes peinent à aller vite pour changer les habitudes.
Voilà,
c'est un gros paquebot.
Ouais. Exactement, ils sont ancrés un peu dans leurs moyens de production, ils ont la pression des investisseurs, des shareholders, etc. Donc la moindre décision, au final, ça prend du temps, il n'y a pas forcément l'envie derrière, et ce n'est pas du tout une des priorités.
Ouais. D'où cette envie avec Freddy de proposer d'autres voies vers la beauté et Less is More. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce concept et en quoi il se démarque de ce que l'on peut trouver sur le marché.
Avec Less is More, donc c'est vraiment on essaie d'appliquer les principes du minimalisme à cette industrie de la cosmétique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Donc c'est vraiment la base du minimalisme. Le superflu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les produits synthétiques qu'on trouve souvent dans la cosmétique. Donc ça, on a voulu s'en débarrasser, bien évidemment. Et ensuite, c'est également l'eau. Quand on achète un gel douche, un shampoing, un gel pour les mains, ces produits sont constitués à 90% d'eau. Donc déjà, ça nécessite...
On achète de l'eau.
Exactement. Alors que c'est quelque chose qu'on a, c'est une ressource qu'on a la chance pour la plupart d'avoir chez nous. Et du coup, cette eau, ça nécessite d'emballer les produits dans des packagings gros, souvent en plastique à usage unique. Ça génère également des émissions de carbone puisqu'on transporte cette eau. Et du coup, nous, on élimine tout ça pour se concentrer sur les 10% qui restent, qui sont les formules. Donc, ça nous permet en fait de réinvestir notre énergie, l'argent, dans la qualité des formules plutôt que dans le packaging ou le transport d'eau.
Le transport d'eau, du coup, c'est beaucoup plus léger parce qu'on le voit, vous êtes venu avec des produits. Finalement, c'est un petit contenant avec une poudre à l'intérieur et on a sa bouteille réutilisable.
Exactement. Donc l'idée, comme vous l'avez dit, ce sont donc des sachets. Il y a 25 grammes de poudre à l'intérieur. Et quand vous le reconstituez chez vous avec votre eau, vous obtenez 250 millilitres de produits liquides. Donc vous retrouvez la gestuelle et une fois que c'est posé sur votre bord de salle de bain, vous avez l'impression d'avoir un gel douche standard, je dirais. Mais sauf que au final, vous n'avez pas transporté l'eau. J'avais juste transporté ces petits sachets de 25 grammes de poudre.
On a eu l'occasion d'en parler dans ces salles à France. Il y a les cosmétiques solides hein, qui sont aussi sur le marché. Puis ça, c'est devenu un peu la nouvelle, j'allais dire presque la nouvelle alternative qui permet d'être dans du solide, mais tout en apportant cette envie d'avoir un produit qui se rapproche un peu de ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec de la mousse, avec ce côté un peu gel hein, qu'on va mettre sur ses mains.
Donc exactement.
Parce que là, je parle de mains parce que je vois que c'est le liquide and soap. Donc en fait, en fonction, il y a différentes différents produits.
On a trois catégories de produits. On va avoir le gel lavant-main, celui que vous avez dans les mains. Ensuite, on va avoir un shampoing et on va avoir un gel douche. Donc pour l'instant, on s'est attaqué à trois catégories de produits. Et oui, en fait, on s'est rendu compte que les gens ne sont pas forcément prêts encore en France à renoncer en fait à la gestuelle et aux produits qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Et nous, on s'est dit, mais pour convaincre le plus grand nombre et pour essayer de toucher le plus grand nombre, il faut qu'on essaye de se rapprocher au plus de ce que les gens sont prêts à faire et proposer une alternative écologique, même pour ceux qui sont pas prêts à se laver les cheveux avec du shampoing solide ou à utiliser une savonnette, qui parfois les gens voient ça comme quelque chose de pas hygiénique et aiment vraiment leur gel douche.
On nous l'a souvent dit effectivement aussi au micro de Sud Radio, c'est l'importance que ça ne soit pas vécu comme une contrainte. Et c'est exactement ça en fait. Là, il y a on le voit bien, donc il y a une formule qui est étudiée pour être la plus saine possible, mais il y a la texture qui est également étudiée chez vous, les parfums pour que ça puisse justement être un moment de plaisir, quoi.
Voilà, donc les formules qu'on a développées, on a travaillé 3 ans, hein, près de 3 ans, on a eu 2 laboratoires avec qui on a travaillé main dans la main et qui au final, en voyant nos exigences et nos standards de qualité qu'on voulait atteindre, ils ont un peu jeté l'éponge, je dirais. Et au final, on a trouvé un laboratoire en Bretagne qui était prêt vraiment à nous accompagner, qui a été séduit par notre projet et par ce qu'on voulait faire, qui était vraiment expert de cette galénique en poudre. Et du coup, on a réussi à travailler avec eux, mais ça nous a pris énormément de temps parce qu'on voulait des formules, certes, le plus clean possible, mais également qui apportent de la sensorialité, qui mousse, qui laisse la peau douce, hydratée, qui soit vraiment un moment de plaisir sous la douche et un moment d'évasion, en fait, que les gens puissent retrouver ça et qu'en effet, ils n'aient pas la contrainte d'avoir l'impression d'utiliser un produit qui est juste meilleur pour la planète, mais qui est vraiment aussi meilleur pour eux.
Et donc ces produits, ils ont été créés par 2 entrepreneurs qui ont travaillé de nombreuses années dans le secteur de la cosmétique. Et je trouve assez intéressant votre parcours et celui de Freddy, parce que Freddy Schmidt, le cofondateur de Less is More, parce que finalement, dans son discours, hein, il aime bien se présenter comme silver entrepreneur, de montrer qu'on peut relever le défi finalement de monter une boîte à 50 ans. Alors c'est pas votre cas, vous avez la quarantaine, lui à la cinquantaine, ouais. Mais voilà, finalement, on peut monter une boîte à la cinquantaine parce qu'on a effectivement de gros avantages. Quoi. Il y a le vécu, il y a le réseau, il y a
l'expertise. L'expertise, la connaissance du marché, la connaissance du développement de produits, les exigences aussi. On a quand même des standards et des exigences peut-être qu'on n'a pas quand on est jeune. Il y a un réseau aussi. Enfin, ça nous a permis d'avoir accès les parfums qu'on a travaillé. On a développé 6 parfums, donc chacun des gels lavant-main, shampoing et gel douche sont déclinés en plusieurs parfums. Donc en tout, on a 6 fragrances différentes qui ont été travaillées avec Givaudan. On a eu accès à la division Fine Fragrance, donc vraiment le côté, normalement, la division de Givaudan qui travaille vraiment sur les parfums de luxe, etc., pas forcément sur des produits d'hygiène. On a eu accès à leurs parfumeurs parce que on connaissait très bien des personnes chez Givaudan et qu'on leur a exposé notre projet. On a eu accès à eux, ils nous ont fait confiance parce qu'on avait cette expertise et cette bouteille dans l'industrie. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on a pu se faire accompagner par cette belle maison de parfums et avoir accès à eux, alors qu'on a des quantités pour eux dérisoires, surtout pour une première production. Mais c'est cette voilà, c'est cette expertise et c'est ce nombre d'années dans l'industrie qui nous a permis d'avoir accès à ce genre de choses. Donc non, nous on prend ça comme une force. Et puis on est toujours, on fait partie de réseaux aussi d'entrepreneurs dans la beauté où on se frotte à des jeunes et c'est toujours intéressant. Ça nous rajeunit, ça nous garde jeunes dans la tête aussi.
J'aime bien. Ouais, on se frotte à des jeunes alors qu'elle est quand même toute jeune encore. Non mais c'est marrant parce que du coup il y a des préjugés contre les entrepreneurs qu'on a cinquantaine et qui décide de se lancer.
Ah ben moi j'en avais pas forcément parce que ça m'a pas, moi ça me questionne pas plus que ça, mais oui apparemment il peut, puis c'est peut-être pas trop la tendance. Ben il y a le
c'est
côté
vrai.
Oui, il y a le côté, on parle de start-up, alors de suite on pense à la tech, on pense à sortir oui. d'école, etc. Mais bon, avant tout ça reste une entreprise, hein. Un entrepreneur de 50 ans c'est pas non plus complètement extraordinaire.
On le dit, un stop au mythe du jeune entrepreneur à
Exactement.
Plus de 50 ans. On peut aussi lancer son entreprise. C'est le cas de votre cofondateur, Freddy Schmidt. Et grâce à vos années d'expérience, on l'a bien compris, vous proposez une alternative à ce qui existe sur le marché. Et surtout, cette proposition de produits en poudre mm-hmm. qu'on va finalement confectionner. Enfin, pas confectionner, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'on va...
Mélanger soi-même
avec son
eau,
voilà,
dans
simplement.
Un contenant. On peut utiliser aussi les contenants qu'on a chez soi. Donc ça, c'est intéressant
aussi
parce
aussi.
Que les gens aiment bien avoir dans leur salle de bain le petit pousse-pousse qui va bien avec leur déco. Ils sont pas forcément obligés d'utiliser notre bouteille. Nous, on voulait pas venir des vendeurs de bouteilles. On veut avant tout vendre les recharges, vendre la poudre parce que c'est la formule qui nous intéresse et c'est ça qui compte vraiment au final dans le produit.
Voilà. D'où un flacon. Très minimaliste également, mm-hmm. pour pouvoir se fondre parfaitement dans le décor.
Exactement.
Merci beaucoup, Julie Garrigue. Je rappelle que vous êtes l'associée, la cofondatrice de Less is More.
Merci beaucoup.
Laver toutes les faces de toutes les dents en même temps grâce à 35 000 filaments de nylon. Oui, c'est possible. On va découvrir dans un instant cette brosse à dents innovante et produite en France. À tout de suite.
Sud Radio Saint-Jean-de-Luz.
103.9.
Sud Radio.
J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs, qui dans perdu en nous. Oh.
Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Alors Gérard, on continue.
Alors ils viennent de faire paraître en édition de poche, enfin c'est chez J'ai lu, un des livres qu'on avait adoré de Kate Morton qui s'appelle « Les ombres d'Adélie Hills ».
Ah oui.
C'est absolument, alors moi j'ai adoré, ouais, c'est 700 pages.
Hein. Très kiff,
attention, c'est 700 ouais. pages, mais ne prévoyez rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, alors on est en Australie, c'est Adélaïde, hein, c'est ouais. une. Alors là déjà la façon dont elle raconte la nature, vous y êtes. Hein, je là, voilà, pour pas cher, vous êtes, vous risquez rien, vous êtes vraiment. Et
on
là va
dans
se passer 59, un meurtre. Voilà,
59.
On est en 59 et puis il y a un meurtre, toute une famille est décimée. On fait une enquête, on essaye, enfin on va dans tous les sens et puis bah on trouve rien. Et puis en 2000 et quelques, il y a une jeune femme qui est à Londres. On lui téléphone, sa grand-mère vient de mourir en Australie, elle revient. Elle va fouiller dans les affaires de sa grand-mère, dans une valise, je crois. Et là, elle va retrouver des choses qui va la mettre en rapport, enfin, selon, il y a quelque chose qui dit que le meurtre qui a jamais été élucidé, un rapport avec sa famille et sa grand-mère. Et là, elle va découvrir des secrets. Et plus vous allez dans cette lecture, plus vous êtes, vous savez, c'est comme quand vous mangez des bonbons, vous en prenez un, vous dites non, il faut pas, et puis voilà. Et vous ne lâchez plus ce bouquin jusqu'à la fin qui est bon, voilà. Ça a été un des plus gros succès qu'on ait eu il y a je crois que c'est un an ou deux.
Marché,
les
ouais.
gens ont adoré ce bouquin. Mais Kate Morton, hein, c'est une
immense écrivain. Hein,
quand on dit un tourne-page, une fois que vous rentrez dans ça, c'est une vraie drogue.
Là,
hein.
vous avez 700, quoi faire,
mais
hein.
oui, mais c'est ouais. foutu. Franchement, c'est foutu.
C'est foutu. Ouais, ouais.
Donc commencez pas ça la nuit, enfin à la soirée, parce que vous n'allez pas dormir. Et
16 millions de lecteurs dans le monde. Kate Morton, ah oui. Les ombres d'Adélaïde Hill, c'est en collection J'ai
une
lu.
Merveille.
Moi, j'ai reçu ce livre de chez Pocket, Jenny Colgan, La confiserie de Rosie. Je pense que là aussi, si vous
Mais
voulez
oui.
passer un moment voilà, sans prise de tête, sans guerre, sans maladie, sans,
voilà,
sans
l'humour truc et
glauque,
saveur. Ouais,
c'est ces romans qui vous font du bien. C'est une jeune femme qui doit trouver une maison de retraite pour sa tante. Alors sa tante, elle tenait une confiserie.
Oui.
Le bouquin, il est aussi sympa que la couverture, qui est un bocal de bonbons, de sucre d'orge. Donc elle trouve une maison de retraite pour sa tante. Elle trouve un repreneur. Elle doit trouver ce repreneur, mais finalement, elle décide, elle, de s'installer dans cette petite ville de Lipton, où évidemment les choses ne vont pas être forcément telles qu'elle l'avait imaginé. Mais, il y a évidemment toujours de l'espoir. Ça s'appelle La confiserie de Rosie, c'est Jenny Colgan et c'est chez Pocket.
C'est vrai qu'on parle pas souvent de livres pour ados. Hein. Et j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, il faut que tu lises ça, ça s'appelle Force. Alors la quatrième, Wings, Force Wing, hein, F-O-U-R-T-H, de Rebecca Yano, c'est chez Hugo... Je sais pas si c'est pour vous ça.
Ah,
Hugo Publishing.
Okay.
Mais alors, j'ai lu, je me suis fait avoir, mais c'est vraiment pour les jeunes ados, enfin okay. les ados et les jeunes,
et
comment
alors,
on appelle.
Vous me trouvez trop vieille.
Non, mais je veux dire, c'est très particulier. Enfin, vous avez une jeune fille, c'est un monde parallèle, hein. C'est de la fantaisie. Hein. Une jeune fille, alors elle adore la littérature. Elle a une mère qui est générale. Et cette mère générale, le problème, c'est qu'elle dans ce monde, elle est cavalière et elle est dresseuse de dragons. Et donc la gosse, elle a pas envie d'être dresseuse de dragons. Mais bon, elle a pas le choix. Et là, il y a des examens à passer. Le problème, c'est que si vous loupez votre examen, soit vous devenez dragonnière, soit vous êtes tué, vous mourrez quoi.
Ouais.
Et c'est vous rentrez là-dedans. Alors c'est vrai que en fait, vous faites avoir. Je dis pas que j'en lirai un deuxième, mais si vous avez un ado ou un jeune adulte qui n'aime pas lire, nous à la boutique, c'est de la folie. C'est-à-dire que les gosses viennent, c'est le tome 1,
ils attendent le tome 2.
Moi, je suis pas l'auteur. Hein. Et donc, allez-y, c'est vraiment miraculeux. Ça s'appelle Force Wings de Rebecca Yaros chez Hugo Publish.
C'est un genre de nouveau Harry Potter.
C'est vraiment plus fantasy. On est vraiment dans les. Non, c'est vraiment plus pour adultes, enfin vraiment au départ.
Petit livre pour enfants, trois cailloux. Alors c'est trois cailloux en haut d'une montagne. Ils ont toujours été là, au sommet de la montagne. Et puis un jour, il y a un coup de vent et boum, ils tombent dans un nid. Il y a l'oiseau qui arrive. Enfin, là aussi, il y a beaucoup de suspense. J'adore les dessins. J'adore la tête regarder des petits cailloux avec leurs yeux. Là aussi, c'est un album pastel qu'on vous conseille pour les petits. Faites lire vos enfants, donnez-leur des livres, montrez-leur les livres. Il y a que comme ça que il y aura une chance qu'ils lisent. Parce que si moi, je remarque qu'il y a plus de livres dans les maisons hein, quand on est invité chez les gens. Il y a plus de bibliothèque, il y a très peu de livres.
C'est horrible. Hein.
Ouais.
Bah, déjà, quand je vois une maison sans livres, ça m'inquiète.
Ah, moi aussi, je m'en vais tout de suite. Après, Gérard.
Alors, vient de reparaître. On croit que les gens connaissent et tout. Je suis pas fait pour avoir des fiches, moi. Le bouquin en livre de poche de Vassily Grossman, c'est Vie et destin. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et alors, je me rends compte en vieillissant. C'est que les générations passant, on croit que c'est acquis, mais les gens ne connaissent plus. C'est-à-dire que des livres peuvent disparaître de génération en génération. Hein. Et là, ils viennent de faire reparaître. Ça a été écrit dans les années 60. C'est paru dans les années 80. Alors, ça a été censuré par le régime communiste. Hein. Il est russe. Et en fait, c'est à travers une histoire de famille. C'est toute la guerre. Alors, vous allez aller à Stalingrad, vous allez découvrir, je l'ai à Treblinka, une fois que vous êtes dedans, vous comprenez ce qu'ont souffert les Russes,
Et
aussi vous allez comprendre ce que c'est que l'horreur stalinienne. Enfin, c'est terrifiant parce qu'on parle des nazis, mais Staline était aussi terrifiant. Il a même presque fait plus de morts que Hitler.
Oui,
c'est vraiment. Allez-y, ça vient de Paris, c'est un gros bouquin, mais je vais pas dire que c'est un livre d'aventure, hein, mais c'est vraiment un livre, un roman historique. C'est pas un roman historique, enfin c'est un roman historique et à la fois un témoignage. C'est un des grands, c'est comme Solzhenitsyn, c'est une référence de littérature du XXe siècle.
Ouais, donc redites-nous le.
Ça s'appelle La vie et destin de Vassily Grossman en livre de poche et ils ont fait reparaître plein d'autres textes de lui qu'il faut lire parce que c'est vraiment un des monuments littéraires, lui, en tant qu'auteur du XXe siècle et ça reste éternel et universel.
Ce petit livre sur lequel je suis tombée, c'est un petit livre, mais c'est un grand livre, Juste le temps de vivre, Yann Lyotard. Et cette couverture, c'est le petit garçon qui avait joué dans Poil de carotte, enfant comédien. C'était à l'époque un des rares enfants qui jouait au cinéma. Il a joué avec Louis Jouvet. Et quand il grandit, il ne peut plus jouer des rôles d'enfant. Donc il arrête de tourner et il devient résistant dans le réseau dirigé par une femme, Marie-Madeleine Fourcade, qui est une des seules femmes à la tête d'un réseau de résistance. Il est torturé, fusillé, et ce livre, c'est pour ne pas oublier ce jeune garçon, pour ne pas oublier ses actes héroïques dont il n'a jamais parlé, évidemment, puisqu'il est mort très jeune. Et Georges Perec l'avait cité dans Je me souviens du jeune auteur, du jeune acteur Robert Linen. C'est très émouvant, c'est très beau, c'est chez Arléa. Juste le temps de vivre, Yann Lyotard.
Encore pour les enfants, il y a une série aussi. Alors là, c'est plus Harry Potter, hein, si vous aimez. Ça s'appelle, c'est pour moi que ça tombe ça. Whisperwicks. Alors Whisperwicks. Oui. Thomas, hein, c'est Jordan Lise. C'est chez Ozu. Et c'est un monde à Harry Potter. C'est pareil, il va y avoir plusieurs tomes et les gosses, ça fonctionne. Mais alors, ça vient de paraître, mais c'est de la folie. Si vous avez un problème de lecture avec vos enfants, vous leur faites lire ça, vous allez voir, c'est magique. Hein. Il y a des livres comme ça qui sont des vraies clés pour la lecture. Et en fait, c'est un monde très particulier où les. Alors ça, c'est. J'adorerais ça, c'est que les rues changent de place dans ce monde où
bien.
On paye avec les. Il n'y a pas de monnaie,
bien.
Mais c'est des cartes magiques. C'est tout le monde de la magie. C'est Harry Potter. Je veux dire, franchement, c'est complètement une autre histoire. C'est pas plagié, hein. C'est complètement autre chose. Mais vous retrouvez dans le côté poétique, magique, surprenant. Moi, j'ai été vraiment. Je me suis fait.
Alors autant. Les gamins aiment bien.
Autant les dragons, les machins, c'est pas trop la fantaisie, mais alors autant ça, je me suis fait avoir et j'aimerais bien voir le tome 2.
Le tome 1, il vient de paraître. Vous êtes resté un grand enfant.
Ouais.
Alors redites-nous le titre, vous embêter.
Jordan Lise, ça s'appelle Whisperwicks et c'est chez Ozu. C'est vraiment ça va être un livre phénomène à mon avis.
À partir de quel âge?
Oh, à partir de 8-9 ans. C'est comme Harry Potter.
Vous aussi, vous avez pris Bertha et moi Béatrice Alemania. Alors, vous savez qui est Bertha? Bertha, c'est la croûte sur le genou de la petite fille. Et la croûte ne partait pas, donc elle est inquiète, elle pleure. Alors, elle a des jolis cheveux orange.
Ah oui, ça c'est...
Le dessin est... Je pense que c'est important d'avoir des dessins ludiques pour les enfants aussi. Sa maman lui met de la crème et Bertha ne s'en va pas. Donc, elle commence à s'habituer et puis, on vous dit pas la fin, mais c'est très joli. Il y a un chant de coquelicots à un moment avec Bertha qui va. Peut-être que les coquelicots deviennent sont des petites croûtes de genoux qui sont devenues. Oui, mais c'est très beau. Bertha et moi de Béatrice Alemania et c'est aux éditions de l'École des
Loisirs. Je trouve que c'est mieux. En notre époque, elle est là en ce moment, c'est que souvent les livres pour les albums pour enfants étaient faits pour des adultes dans l'absolu.
Ouais, ouais,
alors
c'est
que
vrai.
Là, on revient à des
choses un peu plus sympas et plus.
Voilà. Alors moi, les Jeux Olympiques, j'en ai rien à foutre. Alors Guillaume Guirand et Roman Badel, ça s'appelle les Jeux Olympiques. C'est au sol, les Jeux Folympiques. Alors je vous le donne, c'est absolument incroyable, c'est frappadingue, c'est drôle, c'est des jeux très particuliers. Alors par exemple
il y a l'haltérofolie.
Ouais, alors il y a le truc, c'est la devise, c'est plus drôle, plus fou, plus libre déjà, et l'important c'est pas de gagner, c'est de bien rigoler. Et alors le premier, alors il y a plein de disciplines, hein. il y a le badminton, j'adore ça, se joue avec des chauves-souris. Alors ils en prennent 21. Le principe, c'est de prendre un maximum. Il faut en prendre 11 pour gagner, mais en faisant attention à pas faire mal à la chauve-souris. Hein. Et puis,
le gagnant, c'est le vampire des Carpates, roumain Minos Ferratu, surnommé le vampire des Carpates, qui remporte toutes les compétitions depuis 77 ans et il gagne chacune de ses parties.
Ses illustrations sont absolument drôlatiques. Drôle. Et alors, le premier, il est noyau d'abricot. Le deuxième, il est pépin de raisin. Et le troisième, il est queue de cerise. C'est drôle, c'est magnifique.
J'adore.
C'est plein d'humour. À mon avis, c'est un des plus
des
albums les plus originaux que d'enfants depuis.
La gymnastique, c'est créé autrefois dans un temple mexicain. Donc la gymnastique repose sur la souplesse et l'agilité. Donc il faut faire le battement d'aigle, le coyote à l'affût.
Il y a l'hippopotation aussi qui est pas mal. Il faut monter sur l'hippopotame. Et en plus, rien que les illustrations, ça fait rire. Quoi.
La natation. Oui. Nageouille contrarié, c'est super. C'est chez Seuil Jeunesse, Guillaume Guéraud et Ronan Badel.
Si
bravo à eux. Olympiques, c'est génial.
Manière d'aimer les Jeux Olympiques. Voilà.
Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.
Sud Radio Albi.
101.2.
Sud Radio.
Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
La vie normale, je l'aime bien, même si parfois je rêve d'être loin. Et si mes rêves sont banals, c'est peut-être que je les vaux bien.
Ce n'est pas de l'or dans les mains, ce n'est pas avoir 20 sur 20. Ni être roi, ni être reine, juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux. Et puis quand y en a pas, eh ben, on s'en met dans les yeux.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et dans cette rame de métro, on se serre sans même se parler. Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder.
On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger. Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager.
La vie normale, c'est comme la tienne, vivre des choses qu'on s'en souvienne. Je me contente de rien, tu vois, je veux juste le respect qu'on me doit.
La vie normale, si on l'ose, c'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose. Qu'il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser. Ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Oh, 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 oh.
de l'or dans les mains.
Ce n'est pas avoir 20 sur 20,
ni être roi, ni être reine,
juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est comme la tienne,
vivre des choses qu'on s'en souvienne.
Je me contente de rien, tu vois,
je veux juste le respect qu'on me doit.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens.
Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et ça rend extraordinaire
ma vie, tout à fait ordinaire. Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot.
Je me lève tôt, je me couche tard. Parfois, j'ai un peu mal au dos.
Verisur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisur.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisur présente.
Sud Radio, le numérique pour tous. Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale crise dans le monde de l'assurance. Et oui, entre les catastrophes liées au dérèglement climatique, le vieillissement de nos populations, mais aussi et surtout les attaques cyber, on est en droit de se demander si nos assureurs préférés seront en mesure de nous protéger dans les années à venir. Le numérique pour tous spécial crise dans le monde de l'assurance, c'est parti et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour commencer cette émission, une experte qui accompagne de nombreux groupes dans le domaine de l'assurance, elle dirige le secteur assurance pour KPMG France et est membre de l'Insurance Leadership Team au niveau mondial. Viviane Lefleuve, bonjour. Alors on va parler de choses compliquées mais vous allez les rendre très très simples. Viviane, on le sait tous, hein, l'assurance est en train de subir une véritable révolution avec les risques climatiques, on en entend souvent parler actuellement dans les médias, mais aussi le risque cyber et aussi avec le vieillissement de nos populations et nos modes de vie. Donc il va devenir quelque part de plus en plus difficile d'assurer l'imprévisible. Expliquez-nous pourquoi toutes ces catastrophes en cascade, malheureusement, font qu'il y a aujourd'hui un bouleversement dans ce monde de l'assurance.
L'assurance repose sur deux principes de base, la connaissance et la mutualisation du risque. Donc pour faire très simple, si un assureur sait qu'il y a en moyenne une personne sur 10 qui a un sinistre et qu'un sinistre coûte 100, il va assurer 10 personnes, leur demander à chacune de payer 10, il collecte ainsi globalement 100 et ça paye le sinistre de la personne qui a le malheur de subir le sinistre. Et avec les risques liés au changement climatique et le risque cyber, ces deux principes de base sont challengés. D'abord la connaissance du risque, parce que ce sont des risques qui évoluent rapidement. Et donc effectivement, ça crée une incertitude sur le niveau réel de risque. Et puis la mutualisation, parce que pour que la mutualisation marche, il faut que tout le monde n'ait pas un sinistre en même temps. Et avec les risques liés au changement climatique et le cyber, on sait que ce sont des risques qui peuvent être de très grande ampleur et on atteint ce qu'on appelle techniquement les limites de l'assurabilité.
Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, Viviane, par le risque climatique. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été rendu récemment, le rapport Langrenet sur l'assurabilité des risques climatiques. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les grands axes de ce rapport qui remet à plat, quelque part, les orientations de système assurantiel ?
Alors, effectivement, le rapport est très riche. Il y a un grand nombre de mesures et je ne vais certainement pas toutes les détailler, mais il y a quatre grands axes. Le premier, c'est la pérennisation du système, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. On ne va pas se le cacher, le risque augmente et ça passe notamment par une augmentation des ressources de ce régime et donc de la part des primes d'assurance pour le régime des catastrophes naturelles. Ensuite, il faut préserver la mutualisation du risque sur l'ensemble du territoire. Et donc là, c'est à la fois le fait d'augmenter la connaissance et de manière précise d'identifier les zones à faible, moyen ou risque fort. Et puis s'assurer que les assureurs jouent le jeu et qu'ils restent présents sur l'ensemble du territoire.
Mais ça veut dire que si vous êtes sur un territoire plus à risque, vous allez devoir payer plus cher ou est-ce que maintenant il va y avoir une différence, le système ne va plus être universel comme il était jusqu'à présent?
Alors l'objectif c'est d'avoir une modération des primes en fonction des zones de risque. Pour certains risques, notamment les risques industriels à haute valeur, les résidences secondaires, donc ceux où on a un peu plus le choix que l'endroit où on habite, on pourra effectivement avoir des zones avec des tarifs qui ne seront peu ou moins mutualisés. Sinon, l'objectif, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de moduler de telle sorte qu'on va organiser une sorte de péréquation du risque, d'où l'importance de s'assurer que tout le monde joue le jeu et qu'on reste présent sur les différentes parties du territoire.
Viviane, vous disiez en introduction qu'effectivement, la connaissance, on ne l'a pas encore, on n'a pas d'antériorité suffisante au niveau du risque climatique et du risque cyber. Alors, on parle beaucoup partout d'intelligence artificielle qui répond à tout, etc. Aujourd'hui, cet outil d'intelligence artificielle ne permet quand même pas d'avoir une vision globale et d'agréger suffisamment de données pour y voir un peu clair sur des prédictions.
Alors, la modélisation du changement climatique et des risques climatiques dans l'assurance, ça n'a pas commencé aujourd'hui, il y a de nombreux modèles et ils sont assez complexes. Et l'intelligence artificielle, comme d'ailleurs toutes les techniques algorithmiques avant elle, permet effectivement cette connaissance du risque. Ça permet aussi de faire d'autres choses utiles dans la gestion du risque climatique. Par exemple, on a assisté un de nos clients pour le dimensionnement des centres d'appel. Donc là, l'idée, c'est à partir de données météo de prévision à 2-4 jours, d'aller estimer le nombre de sinistres qu'il pourrait y avoir et de directement faire en sorte que les centres d'appel soient dimensionnés pour répondre au surcroît d'appel qu'il y a après une tempête, par exemple. Donc c'est aussi dans la façon dont on va gérer le sinistre quand il survient que ces techniques peuvent être utilisées.
Alors on va en venir au risque cyber, hein, on l'évoquait là aussi en introduction. Là, les assureurs n'ont pas suffisamment d'antériorité des données. Et là aussi, le risque survient. On n'a pas encore modélisé suffisamment pour se dire comment on assure aussi bien le grand public que les entreprises.
Alors, sur le risque cyber, il y a une partie de connaissance du risque, notamment liée au fait que lorsque les sinistres surviennent, pendant assez longtemps, on avait un problème aussi d'accès à l'information. Donc, il y a aussi le fait de la remontée obligatoire des sinistres, des incidents, que ce soit déclaré, de manière à effectivement pouvoir mieux apprécier la réalité de la menace.
Alors peut-être on peut dire à nos auditeurs concrètement un risque cyber, et on en parlera en deuxième partie, notamment oui, avec notre invité qui est spécialisé dans le domaine, mais un risque cyber, c'est que tous vos systèmes informatiques dans l'entreprise sont bloqués, en général, hein, je fais globalement, vous ne pouvez plus envoyer d'email, vous ne pouvez plus communiquer avec vos fournisseurs, vous ne pouvez plus envoyer de factures, et donc il y a des pertes automatiquement parce que vous n'êtes plus payé, et puis il y a un endommagement et surtout une rançon à payer. Donc là, l'assureur ne peut plus intervenir en fait pour l'instant.
Il y a effectivement plusieurs types de sinistres qui peuvent être couverts. Il y a effectivement des coûts directs qui vont être liés effectivement aux dommages sur les systèmes d'information. Ce qui coûte effectivement le plus cher aux assureurs sur le risque cyber, c'est les pertes d'exploitation qui sont consécutives aux problèmes à l'attaque. Typiquement, si vous êtes un site de e-commerce et que pendant 15 jours le site est fermé, forcément ça a une incidence très forte, sans compter effectivement après les effets sur la réputation, etc.
Viviane, on a parlé du climat, de la cyber, quelque chose qui nous concerne encore plus tous, c'est la santé. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir des modèles qui prédisent un petit peu l'évolution. Mais alors là, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va sur un modèle comme aux États-Unis où en fonction de la connaissance des maladies que vous allez pouvoir avoir, vous allez avoir des polices beaucoup plus chères?
C'est un choix de société. Cette question-là, vraiment, on le voit sur effectivement l'assurance santé. Quelles sont les données auxquelles, collectivement, on accepte que les assureurs aient accès ou pas accès? Sachant que, évidemment, comme tout un chacun, quand on est jeune et en bonne santé, on trouve que c'est plutôt une bonne idée et que effectivement, on devrait pouvoir bénéficier d'une assurance sur quand on est emprunteur, par exemple, qui est plus faible parce qu'on a un risque de décès plus faible. Et puis, quand on est effectivement dans les publics le plus vulnérable, là, on voudrait pouvoir bénéficier de la mutualisation. Donc, c'est un choix de société. Je ne crois pas qu'il soit nécessairement que le seul possible soit d'aller vers l'évolution américaine. Ce qui est clair, c'est que si on est d'accord sur l'utilisation systématique de l'ensemble des données disponibles, ça rompt la mutualisation et du coup, c'est contraire à l'application de l'assurance. Chacun se retrouve avec son risque.
On entend parfois aujourd'hui que nos données de santé ne sont pas si sécurisées, donc ça veut dire qu'elles circulent sur le darknet, hein, je veux faire peur à personne. Néanmoins, ça veut dire que ces données circulent, elles peuvent être achetées ou récupérées par des gens qui voudraient profiler un petit peu leur sociétaire. Est-ce qu'il faut craindre ça dans les années à venir, justement, cette absence de sécurisation totale de nos données ?
Alors, qu'il faille craindre l'absence de sécurisation des données, sans doute. Pour que les assureurs utilisent des données qu'ils auraient trouvées sur le darknet, là, sincèrement, je pense pas que le risque ce soit celui-là.
Vous nous rassurez là-dessus. Viviane, pour conclure, le risque va beaucoup plus vite. Le risque, oui, va plus vite que la capacité des assureurs à innover. On est dans un entre-deux aujourd'hui. Les modèles sont en train de se réinventer chez nos assureurs, où il y a des petites start-up peut-être qui sont en train d'inventer des nouveaux produits qui peuvent répondre de manière beaucoup plus agile, on va dire, à l'assurance des.
Alors, l'évolution des risques, l'observation et la prise en compte des risques émergents, c'est par nature le métier de l'assureur. Ce qui me semble aussi important, c'est on parle beaucoup aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises, et l'ensemble de ces éléments est important. On voit évidemment les éléments environnementaux, on en parle beaucoup. Effectivement, on a parlé des risques liés au changement climatique. Les éléments sociaux sont aussi importants, et là se pose notamment la question effectivement de comment, alors pour le domaine de l'assurance, on continue à assurer l'ensemble des publics, y compris effectivement les personnes qui sont plus vulnérables à un risque. Et le troisième élément, qui est celui de la gouvernance, et notamment de l'utilisation éthique des données, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, c'est aussi un enjeu. Et sur l'ensemble de ces éléments, on est fiers d'accompagner nos clients.
Pour conclure, en une poignée de secondes, si vous deviez donner un conseil à nos citoyens qui s'interrogent sur quel type d'assurance prendre par rapport aux risques que l'on a évoqués, bien lire les alinéas, les astérix en petit caractère, ou alors quelle est la...
Lire son contrat d'assurance, c'est toujours un bon conseil. Je sais que c'est pas forcément la lecture qu'on préfère avoir sur sa table de nuit. C'est toujours une bonne idée.
Merci beaucoup Viviane Lefleuve pour KPMG. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve dans quelques instants pour découvrir le casse-tête que constitue l'assurance des cyberattaques. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio Aurillac
101
Sud Radio.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to control when you're not next to me? I'm feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down. I'm falling apart right in front of you, can't you see?
Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour continuer cette émission Crise dans le monde de l'assurance, j'ai le plaisir de recevoir un expert en cyber. Il est serial entrepreneur. Il s'appelle Fabrice Eppelboin. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Fabrice, alors la cyber, c'est un petit peu votre quotidien. Viviane l'a expliqué, mais vous, de l'intérieur, pourquoi ce risque cyber est vraiment complexe à assurer ?
Ben, il est multiple. Prenons deux des grandes menaces cyber de l'entreprise, l'espionnage et puis le ransomware.
Alors ransomware pour nos auditeurs,
le ransomware, c'est le rançonnage, c'est tout d'un coup on va chiffrer tous vos fichiers, votre entreprise va être paralysée. Mais l'espionnage, c'est aussi un énorme risque. Hein. L'espionnage, c'est du renseignement économique qui très concrètement va aller voler vos données pour typiquement alimenter la R&D d'une entreprise concurrente. On sait depuis Edward Snowden en 2013 que la NSA, c'est l'une de ses activités favorites. Et puis très récemment, la DGSI a annoncé, à qui voulait l'entendre, que c'était un risque considérable et que la moitié des attaques qu'elle avait identifiées venaient des États-Unis. Donc ce type d'attaque, le vrai problème, c'est qu'une attaque réussie, c'est une attaque qui se voit pas. Vous allez voir juste les conséquences. Vous allez perdre un appel d'offres, vous allez voir votre concurrent qui dépose le même brevet que vous, mais juste avant vous, vous allez rater une négociation parce que en face, vous aurez quelqu'un qui aura eu accès à vos emails. Une assurance ne peut pas assurer contre ça. C'est pas clair. Possible. La seule façon de se protéger, c'est d'investir dans la cybersécurité. Et de toute façon, il faut investir dans la cybersécurité. Mais ce type d'attaque, objectivement, ça concerne le CAC 40, des entreprises totalement stratégiques, mais pas l'épicerie du coin de la rue.
Alors le ransomware, venons-en au ransomware, la vue de l'intérieur.
Alors le ransomware, concrètement, le ransomware, c'est vraiment un énorme problème pour une entreprise. Vous débarquez un matin dans votre boîte et vous n'avez plus du tout accès à vos fichiers, tout est paralysé. Vous trouvez un petit message quelque part qui vous donne un gentil rendez-vous sur le darknet pour échanger avec les pirates. Et évidemment, votre service informatique est sur le pont, hein, parce qu'il s'agit de redémarrer l'entreprise, donc récupérer les backups, trouver par où sont passés les pirates pour éviter qu'ils reviennent, et puis s'assurer que les données n'ont pas été exfiltrées, parce que là-dedans, il peut y avoir typiquement des données personnelles, et là, c'est une catastrophe, c'est le service juridique qui va commencer à paniquer. Données personnelles, RGPD, tout un tas d'autres lois. Les sanctions sont absolument terribles. La réputation, n'en parlons pas. Donc, entre-temps, vous êtes allé sur le darknet, vous êtes rendu au rendez-vous avec les pirates et vous avez des gens qui vous parlent dans un anglais approximatif et un peu angoissant et qui vous expliquent que vous avez un certain nombre de jours pour donner une rançon qui, généralement, est conséquente. Sinon, la rançon va augmenter ou pire, vos données vont être publiées. Donc là, commencer à réfléchir aux conséquences qu'il y a d'avoir
toutes
ces données.
Alors là, Fabrice, vous décrivez un cauchemar, mais je pense que c'est le cauchemar, malheureusement, qu'ont vécu beaucoup de chefs d'entreprise.
C'est un cauchemar.
Est-ce qu'on peut se protéger ? Est-ce qu'on peut se protéger ?
Alors, on peut se protéger, évidemment.
Et s'assurer.
Évidemment, en allant voir du côté de la cybersécurité. On peut aussi se protéger en allant voir son assurance. Et ça, du point de vue de l'assurance, c'est compliqué comme risque, le ransomware, parce que, très concrètement, c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Donc, on manque de données. On n'a pas d'historique de données. Et les assureurs, c'est surtout des mathématiciens qui arrivent à modéliser ce risque pour calculer une prime d'assurance. Or là, ils ont absolument rien sur lequel modéliser tout ça. C'est pas comme des accidents de voiture ou les cambriolages où là on a toutes les statistiques possibles et imaginables pour calculer cette fameuse prise d'assurance. Du coup, il n'y a pas grand chose qui peut fonctionner. Il n'y a pas vraiment d'horizon très défini pour l'assurance cyber.
J'aimerais qu'on évoque un cas concret qui est le groupe Lockbit, qui c'est une affaire qui est survenue en février dernier. J'aimerais que vous nous reprécisiez le contexte en fait de cette affaire et pourquoi on n'arrive pas à venir au bout de cette criminalité.
Alors Lockbit, c'est une énorme opération de police qui a réuni tout un tas de pays dans le monde dont l'objectif c'était de venir à bout d'un des plus célèbres gangs de ransomware. Le problème c'est que c'est pas un gang de ransomware. Le gang de ransomware, c'est le ransomware d'il y a longtemps. À l'époque, on avait des gangs mafieux qui concevaient le ransomware, qui attaquaient une entreprise et qui la rackettaient. Aujourd'hui, on a tout un écosystème avec des gens qui conçoivent le ransomware, d'autres qui attaquent les entreprises, d'autres qui blanchissent les fonds, d'autres qui identifient les failles, qui revendent à ceux qui attaquent les entreprises. Et tout ça fonctionne de façon très sérieuse, hein. C'est quand même un milieu qui est issu de l'informatique. Ils gèrent leurs projets, ils ont des RH, ils ont un service comptabilité, ils ont toutes les problématiques d'une entreprise, mais c'est très très résilient parce que si vous attrapez l'un d'entre eux, il y en a un autre qui vient se remettre dans l'écosystème et tout redémarre.
Et ça, pour l'instant, c'est à nouveau, et j'insiste là-dessus, imprévisible. On n'a pas une vision globale, internationale, des pirates, qu'ils soient russes, nord-coréens. On n'a pas une visibilité,
folklore russe et nord-coréen. Les Russes sont connus pour abriter des pirates et avoir une relation un peu trouble avec eux. sans qu'on puisse vraiment parler de complicité. Les Nord-Coréens, par contre, eux, il y a très clairement un groupe qui est très célèbre, qui s'appelle Lazarus, qui pirate dans tous les sens, dont les rançons se comptent en dizaines de milliards de dollars, au point de peser dans le PIB de la Corée du Nord. Mais la réalité, c'est que le risque ransomware, il vient de tous les pays du monde, et que le risque le plus évident et le plus courant pour une entreprise, c'est l'employé mécontent ou le stagiaire malveillant.
Quand on vous écoute, on dirait que ça explose de toutes parts. Et là, j'insiste encore, on n'a pas suffisamment de data pour modéliser justement un algorithme, on va le faire simple, qui permettrait de créer une police pour protéger.
On n'a vraiment aucune data. On a aux deux opposés du spectre, le CAC 40 qui commence à être assez habitué à ce genre de rançonnage et qui n'est pas forcément très prolixe parce que ce n'est pas très flatteur. Et puis de l'autre côté, on a la toute petite entreprise qui se fait racketter d'un petit millier d'euros et qui ne va même pas prendre le temps d'aller faire une déclaration un poste de police. Et donc là-dessus, il y a une opacité complète de la réalité de ce qui est assuré. Et il y a par ailleurs un marché pour l'assurance comme pour les pirates qui est absolument gigantesque.
Vous avez vu des initiatives qui vous ont séduites récemment pour voir comment on pouvait anticiper un début de réponse à ce sujet ?
Pour l'instant, la réponse la plus intéressante que j'ai pu voir, ça consiste à imposer à l'entreprise tout un tas de tests pour tester le sérieux de sa cybersécurité et des tests qui sont continus. En permanence, on va scruter pour voir que l'entreprise est vraiment sérieuse sur sa sécurité. Donc, à défaut de savoir calculer le risque pour l'entreprise, on abaisse le risque de l'assureur, ce qui est déjà ça, hein. Mais c'est pas satisfaisant et c'est pas ça qui va permettre d'assurer l'ensemble du tissu industriel. Là-dessus, on assure à ce jour que des très gros qui sont très sérieux, qui ont les moyens d'investir dans la cybersécurité, et comme c'est un domaine dans lequel les ressources sont très rares, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a un vrai problème de résilience du tissu économique face à ce risque spécifique du ransomware, face au cyber en général, mais ce risque ransomware, il a la spécificité de toucher tout le tissu économique, aussi bien la petite épicerie que l'énorme multinationale. Tout le monde est affecté par ça et tout le monde en sera victime tôt ou tard.
J'aimerais vous entendre, Viviane, sur le sujet parce que vous accompagnez quand même vos clients pour concevoir ces nouveaux produits et effectivement les éclairer sur les futures tendances. Quand vous entendez effectivement ce cauchemar qui est décrit par Fabrice, comment vous positionnez avec des débuts de solutions, avec plutôt de la prévention? Quelle est la posture de KPMG sur le sujet?
Alors, ce qu'on voit dans l'élément de l'assurance, et on en a parlé, c'est effectivement aussi le diagnostic, la prévention. Et donc, effectivement, avant la couverture de ce type de risque, il y a des diagnostics, alors effectivement, qui ont un coût et qui sont donc pas forcément abordables pour tout le monde, mais pour identifier les principales faiblesses et donc diminuer le risque. Le deuxième élément qui est aussi important et qui est un service que donnent aussi certains assureurs, qui est l'intervention en fait au moment du sinistre pour savoir quoi faire. Parce qu'il y a aussi, suivant les types d'attaques, effectivement des réactions qui peuvent limiter assez fortement les coûts que ça a sur l'entreprise. Et ça, si on ne l'a jamais fait, effectivement, on peut ne pas du tout prendre les bonnes mesures au bon moment.
Ce monde du cyber, c'est un monde que vous observez, ce monde des pirates qui est décrit un peu de manière romanesque, malheureusement, par Fabrice.
Alors, c'est un monde qui est observé. D'ailleurs, ça pose aussi une question pour l'assurance, qui est une question morale. Faut-il ou pas offrir des couvertures, justement, sur les systèmes de rançon ? Avec effectivement le fait que si les gens sont trop bien couverts sur les rançons, on peut se dire que ça va en fait favoriser ce type de criminalité. C'est la même problématique qui se pose aux États sur est-ce qu'on paye les rançons quand on a des otages.
Tout à fait, c'est comparable.
Il n'y a pas de réponse simple à cette question.
Il y a quelques mesures. On estime qu'effectivement, si demain c'était parfaitement couvert, ça augmenterait mécaniquement et ça fait partie des coûts à intégrer si on veut arriver à une couverture de l'ensemble du tissu économique. Avec ça, pour l'instant, on est très 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 loin. Et puis on est effectivement incapable d'assurer une toute petite PME qui, de toute façon, n'a même pas de service cybersécurité. Il faudra quand même, à un moment ou à un autre, arriver à prévenir ce type de risque, parce que, typiquement, pour une petite PME, une attaque de ransomware, ça peut être absolument dévastateur, même si la plupart du temps, les pirates ne sont pas idiots et les rançons sont proportionnelles aux entreprises qui rançonnent. Donc, typiquement, une petite PME du coin peut se faire racketter de quelques milliers d'euros, ça passera, il finira par s'y faire, et puis ce sera un racket comme un autre, mais ça serait quand même plus sain d'arriver dans un système assurantiel où tout ça soit géré de façon plus propre.
Viviane, on voit qu'on n'a pas forcément des solutions à tout, d'habitude on a toujours des solutions, il y a même un solutionnisme technologique, là ça n'est pas le cas. Les grandes tendances, si vous deviez résumer les trois grandes tendances du monde dans l'assurance dans les années à venir, comment vous les résumez ?
De toute manière, par définition, l'assurance évolue avec le monde qu'elle assure. Et donc, sur les risques émergents, il y en aura toujours. Et donc, effectivement, il faut que les différents acteurs avancent. Ce qu'on voit sur ces types de risques, notamment du fait de leur grande ampleur, c'est que très souvent aussi, c'est un écosystème, c'est des réflexions entre de la réglementation, des éléments qui relèvent pour certains du public et pour certains du privé. Donc l'assurance est une partie de la solution, mais en accompagnement de l'ensemble du tissu économique.
J'insiste pour le mot de la fin, un conseil, allez, aussi bien à nos citoyens qu'aux dirigeants d'entreprise dans une période des Jeux Olympiques où on nous dit que le risque cyber va être multiplié.
C'est rester vigilant.
De l'éducation, de la prévention et effectivement de l'information au niveau des salariés d'entreprise. Fabrice, un conseil, un mot de la fin ?
Des backups. Faites des backups, des vrais backups.
Enregistrer toutes vos données.
Les sauvegardes. Vraiment, c'est quelque chose de compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Faites des vrais backups, testez vos backups et puis allez parler à votre assureur. C'est bien de lire les contrats, mais la plupart du temps, avant même de lire les contrats, échangez avec votre assureur pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, quelles sont les conditions d'accès, parce que la barrière est très haute. Hein. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'assurer contre le cyber. Il faut déjà être conscient de ce cyber et déjà avoir lourdement investi dans sa cyber. Mais ça vaut le coup de parler à son assureur, ne serait-ce que pour la distance qui vous sépare de la possibilité un jour d'être assuré.
Merci beaucoup Fabrice Eppelboin, merci Viviane Leflève pour KPMG. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et surtout continuez à nous envoyer vos messages sur les différents canaux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio Arcachon.
100.4.
Sud Radio.
J'sais plus quoi écrire dans mon carnet vide. Je vois à la télé, t'es toujours belle. Je préférais quand t'étais dans ma rétine. Je préférais quand t'étais dans mon hôtel. Plus belle la vie, maintenant t'es une actrice. Moi j'habite toujours à la même adresse. Je veux pas la guerre, tu sais, je suis pacifiste. Ta mère me manque beaucoup plus que tes frères. Elle m'a pas dit au revoir, mais dans le doute, on sait jamais. Elle veut plus jamais me revoir, mais elle m'ajoute car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir, ça veut pas passer, je fais que d'y penser. Elle m'a pas dit au revoir, je voudrais t'effacer, laisser le temps passer. Elle m'a pas dit au revoir. Elle veut plus jamais me revoir. Hier j'ai pensé à toi chez le dentiste. Il m'a fait aussi mal que tes SMS. J'ai noyé tout ça dans des bacs de 6. J'ai noyé tout ça dans des tonnes de textes. Plus tu m'oublies, plus je fais que des bêtises. Plus tu m'oublies, plus je me laisse aller. T'étais si belle dans mes sales chemises. T'étais si belle et si pressée. Qu'elle m'a pas dit au revoir. Mais dans le doute, on sait jamais. Elle veut plus jamais me revoir. Mais elle m'ajoute car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir, ça veut pas passer, je fais que d'y penser. Elle m'a pas dit au revoir, je voudrais t'effacer, laisser le temps passer. Elle m'a pas dit au revoir. Ah. Elle veut plus jamais me revoir. Ah. Maintenant que t'es avec un beau sportif, je te demande pas comment se passe la grossesse. Ça se trouve c'est mon gosse, il est pas chétif. Si c'est mon gosse, tu peux l'appeler Tips. Un jour tu me diras au revoir. Mais dans le doute, on sait jamais. Tu veux plus jamais me revoir. Mais tu m'ajoutes car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir.